8h46, Monique est en studio opération policière de l'UPAC. Ce matin, on vient de ramasser, entre autres, l'ancien maire de Terrebonne.
Oui, et je vous dirais même une partie des employés de la ville, ex-employés. Il y avait une épée de Damoclès sur la ville de Terrebonne depuis plusieurs années, des rumeurs de corruption qui ont toujours été démenties, entre autres par l'ex-maire Jean-Marc Robitaille. Eh bien, voilà ce matin que l'UPAC frappe et en grand. À part ça, le projet Mediator, une enquête qui a débuté en 2014, 30 policiers qui ont frappé ce matin, 4 personnes arrêtées. Daniel B. Jean Leroux, Luc Papillon, qui était DG, Normand Trudel, entrepreneur. Ils auront donc tous ensemble participé à ce stratagème allégué de corruption. Et ce qui est particulier, c'est qu'il y a un mandat d'arrestation qui vient d'être émis contre Jean-Marc Robitaille. Donc, on comprend qu'on n'a pas été en mesure de l'arrêter ce matin et qu'on le recherche activement. On parle ici d'accusations de corruption dans les affaires municipales et abus de confiance concernant l'ex-maire Jean-Marc Robitaille. On sait que ce sont entre autres des rénovations à son chalet qui avaient intéressé l'UPAC depuis les dernières années, ainsi que des voyages et plusieurs pots de vin.
Merci, Monique. Alors, messieurs, deuxième sujet ce matin. Donald Trump, d'abord, il est dans une vague de congédiements à la Maison-Blanche qui poursuit une belle cadence.
On les additionne, là.
Ça... Oui. Écoute, moi, je suis tombé sur une liste. Je l'ai détaillée parce que ce qui m'intriguait, c'est est-ce que tout est touché?
Départ et congédiement, là.
Départ et congédiement. Puis il y en a au gouvernement, il y en a à la Maison-Blanche, puis il y en a dans d'autres secteurs. Puis grosso modo, là, si tu fais le calcul, ça donne 26 là, en 15 mois. Faut le faire, c'est quasiment 2 par mois. Et ça touche autant les affaires étrangères, on l'a vu avec Rex Tillerson, mais ça touche beaucoup aussi la sécurité nationale, énormément les communications.
Mais son chef de la sécurité, Flynn, a duré un mois.
Michael Flynn n'a pas été là longtemps. Puis il y en a d'autres, là, tu sais, ses porte-parole, beaucoup de gens dans son entourage immédiat, chef de cabinet, adjoint du chef de cabinet, des gens, mais aussi des postes majeurs, comme la procureure générale, là, qui s'appelle Susan Yates, le directeur du FBI. Donc, des congédiements qui touchent, dans le fond, tout l'appareil de l'État, au point où on se dit, mais quel climat peut-il régner à la Maison-Blanche et dans les principaux organismes? Là, on parle du FBI, on parle de la justice, on parle de sécurité, santé et sécurité sociale, on parle de tous les secteurs. Il y a quelque chose d'absolument, je pense, unique dans le nombre de congédiements qui sont faits par Trump. Et ça doit être un climat invraisemblable pour être tous avoir été dans des organisations, avoir des gens qui sont des patrons puis des employés, on sait à quel point, s'il y a quelque chose de fondamental, c'est d'avoir une certaine confiance que tu travailles dans un organisme qui va te garder à ton emploi.
Mais,
à ton
dans
emploi.
Le cas de Tillerson, il a été congédié par Twitter. Il l'a appris comme
exact,
ça.
En plus.
Puis le meilleur que j'ai vu, je présume que c'est vrai, c'est le chef de cabinet, le premier chef de cabinet de Trump.
Priebus,
qui était Priebus, dans l'avion oui. présidentiel. Et Trump lui dit, écoutez, vous êtes congédié et tout ça. Puis bon, l'autre dit, ben, c'est votre décision. Mais il dit, je vais attendre avant de l'annoncer quand même. Il dit, 2 ou 3 jours, il dit question que puissiez informer vos proches puis qu'on prenne des arrangements pour la succession. Alors, il sort de l'avion. Et on le voit, là, la photo. Au même moment, écoute, je pense que c'est 30 secondes, Trump tweet comme quoi il a congédié son chef de cabinet. Le gars...
Il est en train de descendre.
Il voit sortir ça. L'autre vient dire, ben, attendre un peu, 30 secondes.
Mais ce que ça dit, parce qu'il faut aussi voir les motifs des congédiements. C'est-à-dire que le boss, c'est le boss. Là. Moi, je respecte ça. Puis à un moment donné, il faut que tu fasses appliquer. Tu veux mettre en place ta politique. Il faut que les gens participent à ta politique. Mais dans ce cas-ci, c'est que il n'y a pas une telle chose qu'une politique de Donald Trump. C'est tout des coups de tête puis des coups de gueule. Puis...
fondamentalement, c'est le désaccord avec lui.
Ouais.
Tu penses le contraire que lui.
Ben oui, regarde, mais lui-même, c'est pas si linéaire ce qu'il pense.
Fait que faut... lui-même pense souvent le contraire de lui-même.
Fait que, quand tu le suis en moto, là, je veux dire, tu comprends, tu penches à gauche, tu penches à droite, faut que tu tournes. Donc lui, il est... Il place les gens dans une position assez difficile. Là. Je pense, par exemple, à un secrétaire d'État. Mais on l'a vu avec Tillerson cette semaine. C'est quand même un des postes les plus stratégiques. Si t'es rigoureux, si t'es quelqu'un de sérieux, qui travaille rigoureusement ses dossiers, qui travaille sérieusement ses affaires, je sais pas comment tu peux survivre à Trump. Je sais pas comment tu peux... tu fais une chose, tu t'entends, il y a eu des réunions, t'as parlé aux plus grands experts du pays, voici la politique qu'on voudrait appliquer. Puis là, toi, tu mets en place les paramètres progressivement pour l'implantation de ta politique. Tout à coup, il y a un tweet qui arrive sur le travers, mon cher ami, puis qui vient de te bousiller tout ça. Bon, tu peux être patient puis prendre ça avec une certaine philosophie puis dire bon, j'aime mon poste de secrétaire puis tu sais, j'ai un chauffeur puis je vais, tu sais, Trump m'a amené là, Trump m'a amené dans une grosse job, je vais endurer tout ce qu'il fait. Mais tu sais, si t'es quelqu'un qui a une fierté, si t'es quelqu'un qui prend son travail au sérieux,
puis les conséquences, il y a un beau cas là avec la Corée, parce que ce qu'on dit, c'est que Rex Tillerson a toujours été favorable à ce qu'il y ait un canal d'ouvert entre la Corée du Nord puis les États-Unis, ce que Donald Trump réprouvait, il n'était pas d'accord avec lui. Et là, d'un coup, dans un autre tweet, il a décidé que lui allait aller accepter l'offre de négociation avec la même Corée du Nord. C'est sûr que pour le milieu diplomatique, et là, c'est clair là, dans les articles qu'on voit, qu'il y a une espèce de désarroi, puis il y a une équipe très, très familique qui va préparer une rencontre dont personne ne sait au juste sur quelle base elle va se faire. Là, on parle de
mais Tillerson aussi, il faut le dire, c'était pas le plus grand maître de la diplomatie. Là.
Non, puis il est bien critiqué parce qu'il semble qu'il a détruit beaucoup de choses.
Ben, il est plus cohérent.
Cohérent que Trump. Mais dans ça, il faut mettre cette nouvelle-là ce matin en parallèle avec la une du Washington Post ce matin qui nous touche directement le Canada. Cet enregistrement d'un Trump qui pensait n'être pas enregistré, probablement quelqu'un a enregistré l'audio avec son cellulaire. Cet enregistrement où il est dans une levée de fonds. Donc, un événement où un événement caritatif où il pense être en privé avec des gens, puis il allait à plus être dans une atmosphère pour rendre la soirée agréable, donc divertir le public. Et ce qu'il trouve à raconter pour divertir le public, c'est que dans une rencontre avec Justin Trudeau qui semble, il présente comme un beau gars, puis un bon gars, puis un gentil gars, il semble pas avoir peur.
Un gentil garçon.
Ouais, il semble pas avoir peur de lui beaucoup dans la façon dont il en parle, là. Mais qu'il a... Trudeau lui est arrivé avec des faits en disant, mais écoutez, là, c'est bien beau, on parle de l'ALENA, puis... Mais c'est nous, le Canada, qui avons un déficit commercial avec les États-Unis. Les États-Unis vendent plus au Canada que le Canada vend aux États-Unis. Donc. Et Trump de dire qu'il a affirmé le contraire, puis non, c'est l'inverse du déficit commercial, alors qu'il reconnaît devant la salle qu'il n'avait aucune idée du déficit commercial. Qu'il l'a inventé, qu'ils ont inventé.
Donc, il dit qu'il a menti. Il affirme publiquement.
En fait, il a dit n'importe quoi.
C'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est mentir? C'est carrément dire n'importe quoi. Ben oui, c'est une forme de mensonge, mais c'est. Quand tu ignores la vérité, est-ce que tu dis le contraire de la vérité? Il dit, moi, je ne savais pas c'est quoi la balance commerciale. Il y a beaucoup de choses là-dedans. D'abord, il y a l'ignorance de l'homme qui décide, qui parle de l'ALENA depuis des mois, qui est deux mains dans le commerce international Canada-États-Unis, qui ne connaît même pas les données, un petit peu les données de base. Deuxièmement, il y a cette extraordinaire confiance en soi là, que certains admirent, là, mais en même temps qu'on peut mépriser, c'est-à-dire de dire, ben moi, je suis gros, je suis fort, je suis président des États-Unis, puis j'ai confiance en moi, puis je bourrasse tout le monde, puis si j'affirme que c'est ça, ben ça, si j'affirme, peu importe les faits, là, si j'affirme une chose, ça va devenir ça que les gens doivent croire.
Et 30-40% des gens vont le croire.
Oui, puis, parce que c'est perçu comme ça, comme étant, regarde, c'est un gars qui a pas peur de parler, il a même pas peur de dire qu'il savait pas, puis il a affirmé le contraire, donc il nous défend. C'est un espèce de raisonnement absurde, mais qui est fait par beaucoup d'Américains.
Ouais. Puis finalement, ben c'est ça. Comme Canadien, c'est un petit peu inquiétant, là.
C'est vachement inquiétant pour l'ensemble de la planète parce que celui qui préside les destinées de ce qui est encore une des puissances les plus importantes, à la fois militairement et économiquement, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas se fier. Puis son entourage ne peut pas se fier non plus. C'est très, très, très inquiétant.
Merci à tous les deux. On vous retrouve demain, 9h-5.